Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On vous résume en une heure et demie toute l'actu des deux dernières semaines dans le domaine du jeu vidéo. On parle de PC, de consoles, de mobiles, de l'industrie, de tout ce qu'il faut savoir et de jeux, bien sûr. Et parfois, on revient sur des jeux qui sont déjà sortis, comme ça va être le cas avec l'article de Jason Schreier sur le développement chaotique de Anthem, qui va nous occuper un petit peu plus tard dans l'émission. Mais je voulais pas commencer avec ça, avec des nuages et un temps orageux. Donc on va commencer plutôt avec le PlayStation State of Play, avec Sony qui adopte la technique de Nintendo, Apple Arcade qui va arriver sur les mobiles et peut-être, j'espère, je croise les doigts, nous amener des jeux intéressants à foison sur les plateformes mobiles, ou en tout cas sur la plateforme mobile d'Apple. Plein d'autres choses, Borderlands 3, Risk of Rain 2, des rumeurs à foison. Et on va commencer tout de suite en présentant mes co-animateurs. D'ailleurs, je me présente peut-être en premier. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja. Très heureux de vous recevoir dans ce 108e numéro du Rendez-vous Tech. Non, Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Tech, il y en a eu bien plus. Et je reçois, comme il est de coutume, l'ami Jika Loret qui nous rejoint. Comment ça va, Jika ?
Hello, écoute, tout va bien. J'espère que là, parce que je crois que la dernière fois que je suis venu, ça a été chaotique. J'ai dû faire une prestation de 10 minutes environ à cause de problèmes techniques. Là, j'espère que ça va aller. Ça a l'air d'être bon cette fois-ci.
Écoute, là, on t'entend, ta voix est comme du miel qui coule dans nos oreilles.
Écoute, c'est un peu sale et en même temps, c'est très très flatteur.
Mais on a également une autre co-animatrice qui nous rejoint pour la première fois dans cette émission, même si on s'est déjà croisés par ailleurs, Marie aka Mary. Comment ça va, Mary? T'es en forme?
Ça va bien, oui, ça va bien. Très en forme et plutôt contente de pouvoir parler de tous les sujets d'aujourd'hui.
Oui, il y a des trucs intéressants. Merci d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Je sais que ton emploi du temps était compliqué aujourd'hui, donc j'apprécie d'autant plus. On va se lancer donc avec le PlayStation State of Play, qui est donc la nouvelle stratégie de communication de Sony pour sa PlayStation, qui était un petit peu attendue à partir du moment où ils ont dit qu'ils n'allaient pas être présents à l'E3. On s'est dit, ils vont peut-être pousser un petit peu le potentiomètre de la communication directe vers le paramètre Nintendo, en imitant les Nintendo Direct. On sait que Microsoft s'y est mis aussi depuis un moment avec ses Xbox Insider qui ont lieu tous les mois. Il y a deux choses à remarquer, je pense, dans cette vidéo de présentation de leurs nouveaux jeux, de leurs nouvelles annonces. Il y a le contenu de la vidéo en premier lieu et ensuite ce que ça veut dire peut-être pour la stratégie de com de la boîte à l'avenir. Le contenu de la vidéo, moi j'ai lu beaucoup de commentaires un petit peu déçus, voire très déçus, et moi j'ai été quand même agréablement surpris. C'était clairement une présentation qui était centrée sur la réalité virtuelle, mais il y avait quelques annonces sympas comme le fait que No Man's Sky va avoir un mode VR, notamment sur PlayStation 4 évidemment, et sur PC. Il y avait le jeu Iron Man en réalité virtuelle de Marvel qui pourrait être sympa, à voir ce que ça donne. Les premiers retours sont pas si mauvais. Il y a quelques autres truc en plus, pas à 100% uniquement de la réalité virtuelle, mais essentiellement centré là-dessus. À côté de ça, en parallèle, Sony a annoncé qu'ils avaient vendu 4 millions de PlayStation VR, donc ça commence à devenir un chiffre un petit peu substantiel. C'était clairement un essai, et je pense qu'ils n'avaient pas de grosse annonce pour le cas où ils se plantaient. Il fallait que les choses, qu'il y ait un tour de chauffe. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé si décevante que ça, peut-être parce que j'en attendais pas énormément non plus. De votre côté, J.K., Marie, est-ce que c'était la déception, ce State of Play, ou autre chose? Je ne sais pas, J.K. en premier, peut-être?
Moi, je suis un peu comme toi. Je savais que ça allait pas être la folie. Je savais qu'il y aurait pas de, ils allaient pas présenter du gameplay de The Last of Us ou un nouveau jeu de Santa Monica. Enfin, on sait que ce genre d'annonce, c'est une année particulière pour PlayStation. C'est une année de transition. Il y aura pas de gros jeux. Et puis bon, voilà, moi, je m'attache toujours à la réalité virtuelle. Donc, du coup, les annonces en rapport avec la VR m'ont plutôt satisfaite. Et c'est l'occasion aussi de découvrir des trucs un peu plus confidentiels, mais qui m'excitent beaucoup. Enfin, on en parlera après, mais notamment le nouveau jeu de. Le nouveau jeu de No Code, voilà. Observatory, c'est ça? Oui.
Observation.
Voilà, Observation, qui est ce qu'on fait l'excellent Stories Untold. Je suis content. En fait, c'est un peu comme à une époque sur quand ils faisaient les conférences 3 sur scène. Il y avait toujours un segment consacré soit aux jeux indé, soit à des trucs un peu plus de niche ou un peu plus confidentiels, mais qui souvent se révèlent être des excellents titres. Là, c'était un peu ça. Donc voilà, satisfait sans complètement sauter au plafond, mais j'en attendais pas beaucoup plus, quoi.
Ouais. Marie, est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que tu fais partie du groupe des gamers énervés qui auraient voulu plus?
Non, je vous rejoins complètement. En fait, je trouve que ce state of play est cohérent en fait avec justement le fait que PlayStation annonce qu'il sera pas à l'E3 parce qu'ils ont rien à annoncer grosso modo, et au final c'est une petite vidéo qui se concentre surtout sur du suivi. Et justement, qui fait la part belle à la VR. D'une part, je suis très contente que PlayStation continue justement de croire en la VR et de pousser ça. Et d'un autre côté, on a tout simplement du suivi sur des jeux qui ont été annoncés, qui sont en cours de développement et qui sortiront prochainement. Donc, au contraire, je le trouve chouette, je le trouve cohérent.
Ouais, moi je trouve que c'est aussi la bonne formule par rapport aux autres qu'on a vus. Ils se rapprochent beaucoup plus de Nintendo que de Microsoft. Dans l'émission anglophone que je fais sur le jeu vidéo, je recevais Holly Welch, le rédacteur chef de Eurogamer, la semaine dernière, et il avait fait une remarque hyper juste, je crois. C'est que chez Microsoft, ils font un Xbox Insider tous les mois, qui pleuve, qui neige, qui vente. Et souvent, ça, en plus du fait qu'il y a des animateurs qui sont devant la caméra, qui font genre un petit peu américain, genre « Yeah, c'est super cool, Xbox, machin », le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours des choses à dire. Alors là, clairement, c'était pas non plus le foisonnement d'annonces, mais le fait de ne pas avoir un calendrier régulier, c'est peut-être une meilleure formule, je crois, pour ce type de communication. Et puis, ils ont des trailers, des images de jeux avec une narration en fond, ce qui, là encore, me va plus, moi, si on veut pas faire de la relation avec la communauté, quoi.
Ouais, c'est vrai que le côté talk show à l'américaine, très enthousiaste à la Microsoft, c'est pas forcément... Je trouve que ça colle pas trop à l'image de Sony, donc c'est vrai qu'ils sont plus proches de Nintendo, c'est comme si on disait à chaque Nintendo Direct qu'on est déçu parce qu'il n'y a pas eu de Metroid ou de nouveaux Zelda annoncés, quoi.
Ouais.
Là, c'est clair qu'il faut se faire à l'idée que Sony va continuer à communiquer comme ça, en tout cas jusqu'à probablement l'arrivée de la PS5, enfin, dans le sens où tant qu'ils n'auront pas de très très gros trucs, je suis pas sûr qu'il y aura tout de suite à l'E3. Bon, en même temps, ça devrait être l'histoire d'un an ou deux, parce que la PS5 va forcément arriver.
L'année prochaine, ils vont à l'E3 pour annoncer la PS5, à mon sens.
Oui, il y a des chances. Ça, on verra. Chances, voilà. Donc c'est chouette, c'est bien.
Et puis oui, effectivement, la question stratégie de communication, c'est, comme on le dit souvent dans ce genre de situation, c'est un outil supplémentaire pour eux. Et c'est... disons que je suis satisfait pour un premier coup. J'espère que les suivants, il y aura peut-être un petit peu plus de choses un peu plus croustillantes, quoi. On va dire ça comme ça. Il ne faut pas qu'ils soient tous aussi... encore une fois, je ne veux pas utiliser le terme décevant, mais avec aussi peu de grosses annonces éclatantes, quoi.
C'est assez sage, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà, il est assez sage. Et Nintendo, tu en parlais, ils ont réussi quand même, sur tout leur Nintendo Direct des derniers mois, à chaque fois avoir, au niveau du Nintendo Direct, on parlait d'une Indie Showcase d'il y a deux semaines, la dernière fois, même là, il y avait des gros trucs assez sympas. Ils ont réussi à chaque fois à faire un petit coup. Et j'espère que, même si c'est pas à chaque fois du côté de Sony, on en aura de temps en temps aussi, parce que sinon, c'est vrai que ça devient un peu décevant. Oui, vas-y, Marie.
Pardon. Je trouve que, tu sais, tu parlais au début du mécontentement des gens. Je pense que ça vient aussi surtout du fait que depuis des années, Sony, elle a entre guillemets mauvaise place d'être le favori. C'est-à-dire que ils ont fait beaucoup de très bonnes conférences E3 notamment, et c'est là-dessus que les gens, enfin c'est à ça que les gens s'attachent beaucoup généralement, avec aussi pas mal d'effets d'annonce. Et c'est vrai que du coup, on en attend toujours plus. Et je pense qu'en ce sens, c'est vrai que pour autant, Sony a annoncé pas forcément avoir grand-chose sur lesquels communiquer. Et d'un autre côté, les gens avaient quand même voilà, cette espèce d'attente de « Ouais, mais Sony propose toujours des trucs cool, donc j'espère qu'il y aura un One More Thing ». Et c'est peut-être ça, en fait, de leur part, de justement, de pas céder à cet effet waouh. On en parlera tout à l'heure avec Anthem, mais voilà, je trouve que c'est adopter une position plutôt saine pour le coup.
Non, t'as raison. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, se disent bah, c'est Sony, c'est les leaders sur le marché. Même Nintendo, que tout le monde adore. Après la Wii U, bah, on se disait bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Peut-être tel et tel truc. Et quand ils font des trucs incroyables, et c'est souvent, on est super content. Et puis, on a peut-être plus l'habitude des Nintendo Direct. Et quand il y en a un qui est un peu moins bien, bon, bah voilà, c'est juste un Nintendo Direct. Là, c'est peut-être aussi le fait que c'est le premier. Et avec l'amour et les effets d'annonce, à raison qu'ils ont pris l'habitude de faire, forcément, on n'est pas dans la même dynamique. Mais ça va venir avec le temps. Je crois que tu as tout à fait raison. Juste puisqu'on parlait de réalité virtuelle, une mention rapide du fait que Valve a teasé puis leaké eux-mêmes leur prochain casque de réalité virtuelle, le Valve Index, qui est leur premier casque fait qu'ils fabriquent eux-mêmes, qui sera pardon, donc pour lequel on n'aura plus de détails dans les semaines à venir. Il est censé être disponible dès le mois de mai 2019. Ça serait un casque de réalité virtuelle. Pardon, il sera disponible le 15 juin 2019, pas en mai. En mai, on aura plus d'informations.
En mai, ce sera la présentation. Ouais.
C'est ça, le 1er mai. Et le Vive, n'oubliez pas qu'il était fabriqué par HTC. Là, il se serait fait aider par Lenovo, je crois. Je ne sais plus. Il y a un fabricant qui les aide pour fabriquer celui-là, mais ils le sortent sous leur marque. Et c'est un casque avec tracking inside-out, donc des caméras sur le casque, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, qui font qu'on n'a pas besoin d'avoir des totems dans la pièce bien placée pour pouvoir faire le tracking du casque et de la position dans le jeu. JK, toi, t'es très très vieux, enfin amateur en tout cas. On n'en sait pas grand chose, donc j'imagine que c'est difficile pas grand-chose, de spéculer.
Moi, j'attends plus Valve sur le contenu que sur le hardware en même, parce que malheureusement, ça fait des années que Valve, ils ont jamais réussi à convaincre quand ils sortaient du matos, hein, en termes de vente en tout cas, que ce soit, rappelez-vous la manette, rappelez-vous les Steam Machines, rappelez-vous le Steam Link, enfin, à chaque fois, ça s'est planté. Par contre, en termes de contenu, après ce casque, on connaît pas grand chose, et ça m'a quand même surpris, parce qu'il y a à peu près un mois, il y a eu des licenciements chez Valve, dont une bonne partie de gens qui bossaient dans l'équipe réalité virtuelle. Et derrière, ils annonce un nouveau casque, donc c'est un peu paradoxal comme annonce, mais bon, on verra. Ouais.
À voir. Surtout, il y a les manettes, les fameux Knuckles manettes là, qui sont censées pouvoir détecter quand tu pointes avec ton index ou ce genre de choses.
C'est censé capter vraiment la position de tous les doigts, en fait, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, effectivement.
Ouais, ce qui pourrait être hyper intéressant pour les applications de réalité virtuelle, mais à voir. Parlons un petit peu de l'Apple Arcade, justement. J'ai l'impression que l'annonce a été faite il y a genre 3 mois, et je sais pas pourquoi, il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait d'émission du rendez-vous jeu pendant des semaines. Pardon, je suis un petit peu malade depuis des semaines, c'est peut-être pour ça que le temps me paraît long. Mais donc, Apple Arcade, Apple a annoncé son service d'abonnement aux jeux vidéo sur tous leurs appareils. En fait, ça marchera sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Et il sera lancé à l'automne. On ne connaît pas le prix, on ne connaît pas de nombreux détails, donc on va un petit peu spéculer. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant, parce que la manière dont ça fonctionnera, c'est que on aura un abonnement mensuel qui nous donnera accès à un certain nombre de jeux de leur catalogue, et ça sera uniquement des jeux payants. Certains seront exclusifs au catalogue, certains seront des jeux qui seront disponibles ailleurs dans l'Apple Store, dans l'App Store, pardon. Donc des jeux qui sont développés par des développeurs tiers, et ils vont participer au financement de certains de ces jeux. Alors, dans diverses proportions. Ils ont également mis en avant des grands développeurs, donc ils ont vraiment mis l'accent sur la qualité des jeux, l'aspect artistique presque, l'aspect auteur de certains jeux. Et l'idée, le sous-texte, c'était, bon, il y a des jeux gratuits qui sont très commerciaux et qui vont chercher à maximiser les profits sur notre App Store, très bien, on ne va pas s'en plaindre, mais notre service d'abonnement se focalisera sur un autre type d'expérience. Ils ont bien sûr parlé pris en exemple les succès de l'App Store, comme Monument, Monument Valley.
Monument Valley.
Monument Valley, voilà.
Monument Valley.
Et quelques autres. Là où moi, l'idée me paraît intéressante, c'est que c'est vraiment un moyen. Le problème de l'App Store, pour nous, gamers, core gamers, c'est qu'il y a un énorme succès des jeux gratuits qui détermine un certain type de business model. Et c'est normal, de business model et donc de gameplay. Et c'est normal parce que tous les business models ont toujours déterminé le gameplay. J'en parle souvent. À l'époque des jeux d'arcade, le gameplay, le game design, c'était on meurt toutes les deux minutes pour remettre une pièce. Bon, ok, pas de problème, mais les jeux payants, donc, ont du mal à voir le jour et à refaire surface, à quelques exceptions près, parce que la concurrence des jeux gratuits et l'immense majorité du public de ces App Store est un public qui ne veut pas payer à l'avance, qui veut télécharger le truc, qui est peut-être un petit peu moins connaisseur de jeux vidéo, ou en tout cas qui a pris l'habitude de jouer sans payer à l'origine. Et donc, les jeux ne nous correspondent pas. Là, ça pourrait être un moyen pour des gens comme nous, comme moi, comme JK, comme Mary, de se dire, si ça coûte 5 euros par mois, il y a quelques jeux qui me plaisent à la base, il y a des développeurs intéressants, je vais le prendre et on verra ce que ça donne, au moins pour essayer les jeux au lancement. Et donc, on va rester abonné 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que c'est, parce que 5 euros par mois, c'est pas une dépense monumentale non plus. Et ça va permettre au système de transférer de l'argent des core gamers comme nous qui aujourd'hui achètent peut-être un jeu tous les 3, 6 mois, 1 an sur ces plateformes et de transférer régulièrement 5 euros par mois aux développeurs qui veulent développer des jeux payants. Donc pour moi, il pourrait y avoir un effet positif à cet Apple Arcade. Je prends les côtés positifs du projet. Il y a des préoccupations aussi, bien sûr, comme la manière dont les développeurs vont être récupérés. Est-ce que c'est au temps passé dans les jeux qu'il va y avoir une sorte de prorata qui va donner une partie de la somme à chaque développeur, ce qui pourrait influencer le game design, effectivement. Mais il n'empêche, il y a quand même une certaine promesse qui, moi, me plaît pas mal dans cette initiative d'Apple. Donc, c'est mon avis sur la chose. Je ne sais pas, JK, si je suis un éternel optimiste comme toujours ou si ça te plaît aussi.
on va voir. C'est vrai que ça va vraiment dépendre aussi du modèle de rétribution pour les développeurs. C'est effectivement, tu en as un peu parlé, mais on n'a rien eu de concret pour le moment. Après, ce qui me fait, alors c'est, je sais pas si le parallèle est pertinent, mais je vais quand même le faire. Typiquement, dans la musique, dans le streaming aujourd'hui, alors c'est pas du streaming, hein, j'ai bien compris que c'est une offre par abonnement, mais aujourd'hui dans les offres par abonnement,
je l'ai pas dit, mais les jeux sont téléchargés.
Oui, ce sera pas du streaming.
Ouais, c'est juste un aspect technique. L'aspect financier est comparable.
C'est ça. Aujourd'hui, dans la musique, donc le modèle dominant, bien sûr, c'est l'abonnement par abonnement, Spotify, Deezer et compagnie. Et on sait très bien que, ça a maximisé le nombre d'utilisateurs, mais par contre, les revenus qui reviennent aux artistes sont ridicules. Enfin, sont vraiment tout petits. Alors là, effectivement, on n'est pas dans la musique, c'est pas une question de droit d'auteur, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que ce sera, alors certes, pour un tout petit dev qui va sortir son jeu à 3 euros et qui va être noyé de toute façon dans l'App Store, le fait d'être mis en avant par Apple, peut-être dans le cas de l'Apple Arcade, c'est super. Je suis bien d'accord. Mais après, est-ce que un Monument de Valley 3 aura intérêt à intégrer une offre comme ça ou plutôt à aller se vendre 5 euros en solo, tu vois? Je sais pas.
Il y a cette idée, cette image des services de streaming qui, à mon sens, est assez, je vais oser le mot, qui est assez fausse. Il y a effectivement les revenus qui sont très faibles par streaming, par chanson streamée, qui sont de l'ordre du dixième de centime ou ce genre de choses. Et c'est un point sur lequel a beaucoup appuyé l'industrie de la musique au moment où elle se battait contre le streaming de musique, comme elle l'a fait contre chaque nouvelle technologie qui a vu le jour. Et l'argument des acteurs de ce métier, de cette industrie, c'était Spotify à l'époque, était bien sûr, aujourd'hui, ça ne représente pas beaucoup d'argent, mais comme au fur et à mesure qu'on grandit, l'ampleur que prend le service va finir par accumuler des sommes conséquentes. Et on le constate aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Le streaming représente plus de la moitié des revenus de l'industrie de la musique aujourd'hui. Alors ensuite, de quelle manière est-ce qu'ils sont divisés? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que les labels prennent trop et que les artistes ne reçoivent pas assez? C'est une autre question qui pourrait être intéressante à débattre, mais la somme que ramène le streaming à l'industrie de la musique est plus que conséquente. C'est l'essentiel de leurs revenus.
Et, oui, d'accord. Mais là, moi, je parle des artistes surtout, quoi, effectivement.
Oui, mais après, ça, c'est pas le système n'est pas en cause. Le système de streaming n'est pas en cause. Le système, c'est peut-être les abus ou la manière dont les revenus sont divisés en amont. Ou en aval du système de streaming, parce qu'au niveau volume, ça représente énormément d'argent aujourd'hui. Je prends un autre exemple que quelqu'un m'avait donné sur Twitter. Regarde Netflix, c'est un système de streaming où chacun paye des sommes raisonnables par mois. Avec la masse, j'ai pas l'impression que les artistes ne soient pas contents d'être payés par Netflix, tu vois. C'est des investissements conséquents. Alors oui, c'est Netflix qui paye beaucoup, mais peut-être qu'on peut imaginer...
Netflix produit aussi beaucoup son propre contenu.
Et tout à fait.
Effectivement, c'est un peu ce qu'a l'air de vouloir peut-être faire Apple quand ils disent qu'ils veulent aider les développeurs.
Pas à 100%, peut-être qu'ils vont pas chercher que des exclusivités, mais peut-être qu'ils vont participer au financement, effectivement, Apple, et que ça sera une autre source de revenus. Pardon Marie, tu voulais ajouter quelque chose ?
C'était par rapport à Netflix, j'ai d'ailleurs cru lire, mais je suis pas sûre de l'info, que Netflix maintenant proposait plus de contenus originaux Netflix sur son catalogue que de.
Ouais, j'ai lu ça aussi. Je pense que ça semble logique.
Il y a pas longtemps. Ouais.
Et du coup, pour en revenir à justement cet Apple Arcade, je trouve ça. J'ai un gros doute sur le fait que ça puisse fonctionner, tout simplement parce que. Inhérent au support mobile, en fait, comme tu le disais, Patrick, il y a cette culture du tout gratuit, on va pas forcément payer un jeu, quitte à ce qu'il soit free-to-play avec tout ce côté frustration, shop, in-game, etc. D'un autre côté, c'est vrai que il y a une espèce de une sorte, en tout cas, si on n'est pas core gamer, comme tu le dis, il y a une sorte de méconnaissance de tous les jeux qui paraissent sur support mobile et qui sont des jeux absolument incroyables. Donc si ça permet de pouvoir faire découvrir à un grand public une autre facette du jeu mobile, de ce que peut être un jeu mobile, dans l'idée, je trouve ça très chouette. Et si en plus ils peuvent accompagner des développeurs et qui peuvent justement financer leurs projets pour que ça apparaisse au moins du côté de l'App Store, l'idée est très cool. Je ne sais juste pas si les gens seront prêts à payer un abonnement pour ça.
La question, en fait, se pose aux gens comme nous, encore une fois. Je crois que c'est des gens comme nous qui ne vont pas beaucoup sur l'App Store parce que ce n'est pas des jeux qui nous plaisent, ou on ne les voit pas assez, ou ce genre de choses. Il y a des gens qui sont déjà sur l'App Store. Le public des jeux free-to-play, il est trouvé. C'est des jeux qui rapportent beaucoup plus d'argent que les jeux... un revenu au niveau de l'industrie qui est comparable à tous les jeux PC-console réunis. Je crois qu'on est dans ce type de proportion pour les plus gros acteurs. Et donc, c'est des gens qui ont déjà leur public. Là où il y a un défi, c'est ce qu'on dit tous, en fait, c'est que des gens comme nous, on ne va pas sur les App Store. Et là, si jamais il y a, deux, trois jeux vraiment intéressants, des jeux de... Alors, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des grands créateurs, je crois qu'au lancement... Une bonne partie d'entre nous, ne serait-ce qu'en France, on sera quelques centaines de milliers à s'abonner, ne serait-ce qu'au lancement, pour voir ce que c'est et peut-être à garder l'abonnement pendant un moment. S'il y a, on voit les jeux, un jeu de clé qui s'appelle Hot Lava, il y a The Passless de Annapurna Interactive, peut-être pas forcément Sonic Racing, mais peut-être.
Ça, c'est les jeux dont on sait qu'ils seront dans l'abonnement ?
C'est ça, oui, exactement. Il y a même Oceanhorn 2, on connaît Oceanhorn qui était un beau Zelda-like, etc., etc. Je sais pas, moi je m'abonne, quoi, ne serait-ce que pour voir.
C'est vrai que quand tu vois les noms, alors effectivement, c'est des trucs très indé, très entre guillemets pour les connaisseurs, je mets des gros guillemets, attention, mais je veux dire, c'est effectivement, on est loin de d'un énième match 3 ou un jeu de stratégie, quoi. Mais
enfin, justement, il y a Disney, il y a Devolver, il y a Platinum.
Mary a raison, c'est clair que ça, c'est très cool. Mais est-ce que c'est suffisamment pérenne pour que ça attire un public assez grand? Ça va dépendre aussi du prix de l'abonnement, évidemment.
Oui, je pars du principe que ça sera 5€, mais peut-être que ça sera plus.
Ouais. Et puis ça dépend. Et puis aussi, il faudra pas dévaluer entre guillemets le taf d'un développeur et en disant bah pour 5 balles, t'as. Enfin, je sais pas si. Enfin, je m'exprime pas très bien, mais je sais pas.
Pour 5 balles, t'as tout. Là, par exemple. C'est un problème. Pour 5 balles, t'as tout. Ça veut dire que ensuite, tu veux plus payer pour rien, quoi.
Bah c'est ça en fait, voilà, c'est ça, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est derrière, est-ce que au final quand tu vas voir un autre jeu de Clay par exemple sortir même sur PC, tu vois, à 15€, bah tu vas dire ah bah, c'est vachement cher, parce que je trouve que d'une manière générale, il y a un discours sur les jeux mobiles qui m'énerve souvent quand les gens disent quand je parle d'un jeu, ils disent tiens, ce jeu-là est excellent, il coûte 5€, et ils disent ah bah 5€ c'est trop cher. Je trouve ça dingue, quoi, d'entendre ça. Et du coup, j'ai peur que ce genre d'abonnement puisse aussi avoir cet effet pervers. Bon, à voir.
Ouais, à voir. Moi, je crois que aujourd'hui, on est dans un monde où le mobile, qui est une énorme opportunité, n'est pas exploité pour des joueurs comme nous, qui sont les core gamers traditionnels. Et bon, j'espère que ça pourrait transférer de notre argent vers les développeurs sur la plateforme mobile, ce qui serait un effet positif. Mais oui, ces préoccupations sont tout à fait légitimes, t'as raison. Bon, parlons maintenant d'un gros, gros morceau. qui est l'article de Jason Schreier sur le développement de Anthem. Alors, pour replacer un petit peu le contexte, Anthem, on sait tout ce que c'est, hein, gros jeu service de BioWare/Electronic Arts qui est sorti il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui, un mois et demi, avec de gros problèmes et un développement clairement chaotique. Jason Schreier, qui est un journaliste de chez Kotaku, qui est franchement, je crois, le meilleur journaliste de jeux vidéo de fond pour les sujets d'investigation qu'on ait aujourd'hui. Il a fait énormément de sujets de ce type-là sur différents jeux, et à chaque fois, c'est des choses qui sont pleines de recherches sur le long au long cours et des trucs hyper intéressants.
Il a fait un livre, d'ailleurs, rappelons-le. Hein.
Il a écrit Blood, Sweat and Pixels.
Absolument formidable.
Ouais. Que je suis en train de lire en audiobook d'ailleurs. Je savais pas qu'il était.
Ah bah pareil, j'ai fait la même chose. Je l'ai écouté en anglais. Hein. Et il a été traduit en français récemment. Je savais pas.
Tout à fait. Du sang, moi, des larmes et des pixels.
Ouais. Je l'ai écouté en audiobook en anglais. C'est très abordable. Hein, même pas besoin d'un très bon niveau d'anglais. Il faut juste connaître un peu l'industrie du jeu vidéo pour certains termes, mais c'est passionnant, quoi.
Ouais. Vraiment une enquête formidable. Je suis à la moitié. Enfin, une série d'enquêtes formidables. C'est marrant parce que quand on dit que le journalisme est mort ou que le journaliste de jeux vidéo n'est pas bon, bon, d'une part, c'est complètement faux. Et on en a des preuves absolument partout. Et Jason Schreier représente, même s'il n'en est pas le seul exemple, mais représente vraiment l'essence de l'idéal du journaliste d'investigation appliqué aux jeux vidéo. C'est un travail admirable. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir comment se passent ces choses-là, j'ai eu le plaisir de le recevoir dans Pixels, dont je parlais tout à l'heure, l'émission en anglais, il y a quelques semaines, et on a un petit peu parlé de son travail en début d'émission, et de la manière dont il le faisait, de la manière dont il le menait. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il a sorti un long, long, long article sur le développement de Anthem, qui retourne aux racines du jeu de 2012, voire même un petit peu avant, avec les stratégies de BioWare dans différents domaines. Et c'est vraiment un article qui ne peint pas un beau tableau de la boîte et du développement du jeu pour différentes raisons. Alors, comme toujours, lui, il est très factuel, il est très équilibré. On sent vraiment qu'il va aller chercher les faits et les présenter de manière quand même assez neutre, même si lui se bat pour la syndicalisation dans le jeu vidéo, ce qui est un sujet compliqué aux États-Unis. En France, ça l'est moins, même si on sait qu'il y a eu des problèmes de cette nature aussi dans des boîtes françaises. Mais et il se bat en fait pour le bien-être des développeurs de jeux vidéo qui sont dans une industrie qui est très compliquée pour eux aujourd'hui pour tout un tas de raisons. Ces articles présentent toujours les choses de manière hyper équilibrée et de manière très factuelle. Souvent, les gens qui parlent des articles ont tendance à retenir seul un côté de la narration, mais Schreier lui-même écrit de manière très, très honnête. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Et là, dans cet article sur Anthem, j'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé énormément de choses positives à dire. Il y a une chose qui est notable, peut-être, avant de rentrer dans le cœur des questions qu'il aborde, c'est que EA n'est pas énormément en cause, contrairement à ce qu'on aimerait penser ou dire dans certains coins des communautés de gamers. EA n'est pas vraiment responsable, je résume, hein, l'article est hyper long, mais EA n'est pas vraiment responsable des déboires de Anthem et de BioWare. À 90%, on va dire, ils se sont mis dedans eux-mêmes pour tout un tas de raisons, et même EA, selon une certaine vision des choses, Patrick Sutherland, le grand méchant de James Bond de EA, est peut-être responsable d'une fin moins négative que possible au développement du jeu avant sa sortie. Bref, qu'est-ce qui a posé problème dans ce développement ? Je retiens deux éléments, vous pourrez me dire s'il y a d'autres choses que vous retenez aussi, mais pour résumer, très très résumer, il y a deux éléments qui sont importants. D'une part, les problèmes posés par... le nom m'échappe tout à coup. Le nom du moteur.
Le Frostbite.
Le Frostbite, merci. Le Frostbite développé par DICE, que EA utilise dans tous ses jeux aujourd'hui. Et donc, le moteur Frostbite, qui sert au développement du jeu, a été développé par DICE pour des FPS, pour les Battlefield. Et il n'a jamais été conçu pour des jeux comme Anthem, et avant ça, pour Dragon Age Inquisition. Et c'était, ceci dit, BioWare qui a a priori pris la décision de l'utiliser pour Inquisition, donc c'est de eux, elle n'a pas été 100% forcée par EA, mais il n'empêche
après,
que le moteur...
c'est le moteur de tous les jeux, de tous les gros jeux d'EA aujourd'hui, à part Respawn qui a son propre moteur chez Titanfall et Apex, mais sinon c'est vraiment le moteur maison, c'est devenu le moteur pour tout, même FIFA tourne avec le Frostbite aujourd'hui. Quoi.
Tout à fait, et bien sûr l'avantage financier pour EA est important puisqu'ils n'ont pas à payer les, on va dire, 5% qu'ils devraient payer à un moteur de tierce partie comme Unreal ou Dieu sait quoi, mais il n'empêche, selon Jason Schreier et selon ses sources, c'est plutôt BioWare qui a pris cette... Alors peut-être qu'il y a une petite pression, mais quoi qu'il en soit, peu importe, le moteur n'était pas prévu pour des jeux comme Dragon Age, pour des jeux comme Anthem, et donc c'était un parcours du combattant pendant des années pour essayer de développer quoi que ce soit avec ce moteur. C'était vraiment problématique. Mais au-delà de ça, la société a souffert d'un problème de management absolument handicapant où les développeurs et les directeurs de la société, du projet Anthem, d'une part, ils ont changé de développeur régulièrement, de directeur régulièrement, et surtout, il semblait que personne n'était capable de prendre une décision sur la direction que devait prendre le jeu, sur ce qu'était le jeu même, sur l'essence du jeu, sur le but, sur le fantasy, le point final où devait arriver le jeu. Et alors, il met beaucoup en avant cette idée qui est le BioWare Magic, qui est cette idée que les jeux sont très compliqués à concevoir pendant très longtemps, et puis dans les derniers mois, parfois dans les dernières semaines, tout s'imbrique, et puis finalement, le jeu finit par être sympa, cool, intéressant et fonctionne. Et ça a été le cas pour de nombreux jeux auparavant pour la boîte. On sait que c'est une fonction du développement de jeux vidéo et que d'autres studios, d'autres sociétés parlent de ce fonctionnement, du fait qu'à la toute fin du développement, enfin, les choses fonctionnent. Donc, ce n'est pas quelque chose de rare. Mais enfin, là, on a l'impression vraiment que BioWare utilisait cette excuse pour excuser des problèmes essentiels au jeu. En fait, le fait que le jeu ne savait pas où il allait et les problèmes étaient beaucoup plus profonds que juste « c'est pas encore imbriqué et le BioWare Magic va faire son boulot dans les derniers mois de développement ». Le problème était que, en fait, le jeu n'existait pas en tant que vision cohérente pendant des années et des années. Il a été, ils ont commencé la pré-production en 2012, et la pré-production a en fait continué jusqu'à 2017, la vraie direction du jeu a été imprimée grâce à une intervention de Patrick Sutherland d'EA, en fait, pour lequel ils ont réalisé une démo, et c'était courant 2017, donc il n'y a vraiment pas longtemps, et c'est à ce moment qu'ils ont finalement pris la décision, par exemple, d'intégrer le vol dans le jeu comme une partie intégrante du jeu. Ça ne s'est fait que pour une démo pour Sutherland, qui était, je ne sais plus, en février ou en mars 2017, et c'est sur cette base qu'ils ont créé la démo pour l'E3, pour la présentation du jeu, l'E3 2017, en juin. Et cette démo, en fait, était beaucoup plus artificielle que toutes les démos qu'on voit à ce type d'événement. Il y a souvent une part on essaye de deviner, on essaye de faire en sorte que ça soit le jeu tel qu'il sera au final. Et au final, il y a souvent des choses qui changent. Donc, les démos ne sont pas très fidèles. Mais là, ça dépasse de très loin ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de démo et ce genre de pratique, parce que le jeu n'existait absolument pas. Tout ce qui est dans la démo était vraiment du vent scripté. Il y avait un environnement qui changeait tout le temps, mais c'était à peu près tout. Et donc, le jeu, on était dans une histoire de pré-production où l'un des autres exemples qu'il donne, c'est on rentrait dans une réunion, il y a 19 personnes qui ont témoigné, des gens qui étaient chez BioWare à ce moment, des gens qui y sont encore. Alors évidemment, les gens qui témoignent, c'est des gens qui ont des choses à dire, donc il faut les prendre un petit peu avec des pincettes, mais il n'empêche, quand sur 19 sources, on a à peu près le même tableau qui est en train d'être peint, on peut faire confiance à l'intention générale. Et il y a plein de gens qui disaient, on rentrait dans une réunion, on débattait d'une question de design, on en ressortait, on ne savait toujours pas ce qui avait été fait. Est-ce qu'il fallait faire ? On disait, ouais, A c'est mieux, B c'est mieux. On ressortait de la réunion et les gens qui participaient à la réunion ne savaient pas dans quelle direction ils voulaient aller, où ils devaient aller, où il fallait aller. Et donc, au final, le jeu n'est vraiment rentré en production que plus ou moins à partir de la première moitié 2017. Et c'est amusant parce que ça confirme une impression que j'avais eue, dont j'avais parlé dans l'émission, qui était, on a l'impression que ce jeu a compris ce qu'il était il y a un an et demi ou deux ans. Et que le développement aurait besoin de un an et demi, deux ans de plus, parce qu'il n'y avait pas... tout ce qui est équilibrage de endgame, tout ce qui est manière dont le loot drop, tout ça n'est simplement pas pensé. Ils n'étaient pas arrivés jusque-là. Et c'est ce que semble confirmer cet article, qui est assez inquiétant pour BioWare et pour EA. J'ai fait un résumé de l'article et de mon impression. Je ne sais pas, Mary, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce résumé ?
Alors, je te rejoins sur le fait que c'est vrai qu'il y a, le manque de communication évident qui avait été bien mis en avant. Je trouve que un des plus beaux exemples que le journaliste avait donné, c'est quand il raconte le nom, en fait le jeu devait pas du tout s'appeler Anthem à la base, il devait s'appeler Beyond, et que à quelques jours de l'E3, certaines personnes de l'équipe ont été prévenues que finalement en fait ce serait trop compliqué à trademarker, en fait à copyrighter comme nom, et que du coup il fallait le changer, et ils avaient décidé de prendre le nom qui était en backup, qui était donc Anthem, parce que ce serait plus facile de sécuriser ce nom là que le nom Beyond, alors même que tous les visuels étaient
prêts, ils avaient les t-shirts et tout. Ouais.
Ils avaient imprimé les t-shirts pour le staff, etc. Et en fait, l'info c'était même à moitié propagée bouche à oreille comme ça à travers cette équipe qui avait l'air d'ailleurs conséquente. Et au final, les gens de l'équipe même avaient du mal à comprendre pourquoi Anthem. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, je trouvais que c'était à peu près le meilleur exemple du problème de communication qu'il y avait, sur le jeu.
C'est-à-dire que le nom de Anthem n'avait pas de sens. Peut-être qu'il y avait ce concept dans le jeu, et encore là, on ne comprend pas très très bien de quoi il s'agit, mais visiblement, même dans l'équipe, ils n'étaient pas sûrs de savoir ce que c'était que Anthem, qui était le nouveau nom de leur jeu, quoi, ce qui est terrible.
Oui. C'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, comme tu le disais, au fil des présentations, on sentait bien que quelque chose clochait, que quelque chose n'allait pas. C'est-à-dire que les gens le qualifient, c'est un Destiny-like, mais en même temps, pas vraiment, mais en même temps, on ne voit pas trop vers là où ils veulent nous emmener. Et en plus de ça, le journaliste relevait autre chose qui était assez intéressant, c'était justement le fait qu'ils ont essayé de faire un Destiny-like avec l'exemple de Destiny qui était complètement tabou. Mmh. Et il racontait du coup que des gens, enfin que quand des développeurs posaient des questions à propos de Destiny ou essayaient de rapprocher le jeu de Destiny qui semblait pour eux être le meilleur exemple de ce vers quoi le jeu devait tendre, il y avait un tabou complet dessus, les gens se faisaient jeter, c'était
un non, nous on fait pas Destiny, ils avaient pas le droit d'en parler, ce qui est quand même horrifiant. On sait que BioWare est divisé en deux studios essentiellement, c'est Edmonton au nord du Canada où il fait super froid et Austin aux États-Unis, au Texas, et c'est marrant parce qu'il y avait des choses comme, il y a une sorte de fierté de Edmonton qui est le BioWare historique, et les gens de Austin sont ceux qui ont développé The Old Republic, le jeu en ligne, et ils allaient voir qu'il y a beaucoup de missions narratives et c'était un petit peu le MMO RPG narratif, et ils allaient voir les gens de Edmonton, ils leur disaient écoutez, il y a des problèmes sur ça, ça et ça, nous on l'a fait, on sait quels problèmes peuvent se poser, faites pas ça parce que ça va pas fonctionner. Et ils se faisaient jeter par les gens d'Edmonton. Un exemple, c'est un truc qui nous a tous frappé quand on a commencé à jouer à Anthem. La narration est faite au cours des missions. C'est-à-dire qu'il y a des voix qui vous expliquent ce qui se passe dans l'histoire pendant les missions, sauf que toutes les missions se font à quatre. En tout cas, sont très, 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 très encouragées à jouer à quatre. Donc, tu n'entends rien de ce qui se passe parce qu'il y a du bruit tout le temps, et les gens avancent et commencent les combats avant que tu aies eu le temps d'entendre ce qui se passe dans ta mission. Et ça, c'était un truc dont ils ont parlé tout de suite et que les gens de BioWare n'ont pas voulu entendre, enfin, les gens de Edmonton, parce que il voulait, il faut dire qu'à la base, il voulait faire un jeu très différent, qui était un jeu d'exploration, de survie, qui n'avait rien à voir avec un loot shooter. Mais donc, ils étaient sur cette idée, peut-être par excès de fierté, on veut pas faire un BioWare. Alors, leur référence, c'était Diablo. Ceci dit, si leur référence, Diablo c'était 3, Diablo 3, ils auraient pu quand même étudier un petit peu plus la manière dont le loot est mis en avant et dont le endgame est construit. Parce que ça aussi, c'est un gros souci. Mais il y a vraiment cette fierté qui est très très mal placée, parce que quand tu fais un jeu qui est dans un genre existant, il faut apprendre des erreurs des autres. La raison pour laquelle les jeux sont aussi bons aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait des erreurs avant et qu'ils ont su les corriger. Ça n'a pas de sens de vouloir réinventer la roue. Peut-être que tu vas innover sur cette roue existante, mais tu ne vas pas recommencer depuis le début, parce que le risque, c'est que tu fasses une roue carrée, et clairement, c'est un problème qu'ils ont eu là de manière flagrante, quoi.
Bien sûr, et au-delà de ça, on en finit par avoir un jeu qui déjà sort en étant complètement buggé, en étant tout simplement pas terminé, voilà, ça crache, il y a des... tu parlais tout à l'heure des dialogues, il y avait justement Jason Schreier qui rapportait le fait qu'il y a certains doublages qui ont été faits et qui n'ont... pour des missions qui ont finalement été... modifier, et puis les gens n'ont pas voulu redoubler parce que finalement le jeu commençait à coûter pas mal cher et que ils voulaient pas redébloquer de budget pour pouvoir redoubler certaines,
oui, ça coûte hyper cher,
certains dialogues. Et au final, en résulte une équipe qui est en burn-out total et un jeu qui n'est pas terminé. Et par contre, la question que je me pose, c'est que je ne sais pas ce qu'en tant que joueur, on est... c'est un truc qui est très symptomatique de cette industrie, parce que quand on est en coproduction, quand on fait une production à autant de mains que ça, c'est vrai qu'il faut... ça demande du temps, ça demande un très bon management, etc. Et je pense que autant du côté des équipes de développement, de l'équipe des publishers, des éditeurs, et des joueurs, on a une responsabilité dans justement les conditions de travail des gens qui vont de ces équipes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire je ne sais pas si vous avez la réponse ou pas, ou si quelqu'un peut avoir une réponse là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que joueur si on est au courant de tout ça
C'est compliqué parce que...
pas boycotter le jeu, mais quand même faire savoir que ce n'est pas quelque chose qui nous va. Voilà, qu'on n'est pas, on ouais. veut pas que acheter des jeux... de gens qui justement ont sué 100 euros pour pouvoir le faire, tu vois.
C'est compliqué, effectivement, parce que le fait de ne pas acheter les jeux, d'une part, c'est faut être honnête, on a envie de jouer à ces jeux. Et puis, Anthem, c'est un jeu qui est mauvais. Donc, c'est peut-être facile de dire, ah bah faut pas l'acheter. Voilà, certains pourront dire, ok, c'est vrai, moi, je vais pas l'acheter, tant pis pour eux. Mais il y a énormément de jeux qui sont très bons, qui sont faits aussi dans ces conditions. Et là, convaincre de nombreux joueurs de pas l'acheter, c'est un petit peu plus compliqué. On n'est pas dans une situation où on parle de, je sais pas, de travail d'enfant ou de pollution, de tankers qui se retrouvent sur les plages, qui déversent du pétrole sur les plages, ou ce genre de choses. Moi, je crois que ce qu'on peut faire, là, j'ai pas vraiment de réponse claire, mais je crois que ce qu'on peut faire, c'est surtout pour les États-Unis, faire en sorte de faire comprendre que la syndicalisation serait une bonne chose. J'en parlais à l'époque des problèmes de Activision et Blizzard, il y a quelques semaines à peine. En France, je crois qu'on est plus réceptif à ce type d'idées, évidemment. Mais la France est une situation tellement différente que c'est compliqué de les comparer. En France, on a si quelqu'un veut arrêter son boulot, ben on a on garde l'éducation gratuite, la santé, enfin la sécurité sociale. On a des mécanismes pour retrouver un autre boulot. Donc c'est un petit peu différent des États-Unis, où aux États-Unis ils se retrouvent à la rue, c'est ce que je disais. Mais au-delà de ça, je crois que la syndicalisation pourrait améliorer les conditions de travail des gens, surtout aux États-Unis, qui bossent dans cette industrie. Et c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Donc, répéter, et c'est déjà en train d'être le cas, il y a un grand mouvement de syndicalisation, répéter que c'est quelque chose d'acceptable et que c'est quelque chose même de souhaitable, je crois, pourrait être la meilleure chose à faire. Parce que petit à petit, du coup, les développeurs qui étaient rétifs à cette idée, parce qu'aux États-Unis, c'est très stigmatisé, se diraient, ah bah finalement, peut-être qu'il faudrait, peut-être que ça nous permettrait de négocier des conditions de travail raisonnables et pas du crunch permanent, que les choses soient mieux rémunérées, qu'on ait des périodes de repos après des périodes de crunch, etc. Je sais pas si c'est la réponse, mais c'est celle qui me paraît, moi, la plus réaliste. Parce que les idées des boycotts, j'y crois pas vraiment. C'est pas crédible, parce que les gens vont pas faire des boycotts, la plupart des gens. Et puis...
Oui, puisque ça revient pas à une double punition, finalement.
Exactement. Il y a plein de développeurs qui disent « Nous, on veut pas que les gens boycottent notre jeu. On a bossé comme des tarés pour le finir. On veut que les gens l'apprécient. On veut qu'il soit un succès, quoi. » Donc... Moi, je crois que les questions, encore une fois, aux États-Unis de syndicalisation, peut-être en France dans une certaine mesure aussi, même si le problème est moins prégnant en France, c'est quelque chose qui correspondrait le mieux. Et ça marche. Il y a des gens comme Schreier, il y a d'autres journalistes, il y a des développeurs qui ramènent cette idée sur le devant de la scène. Ça ne se fait pas en 2 semaines, évidemment, ça va prendre des années. Mais petit à petit, je crois que cette industrie va réussir à rentrer dans une logique un petit peu plus cohérente de la manière dont elle se gère elle-même. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de crunch, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'heures supplémentaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de licenciements. Ça veut juste dire que au moins, il y aura des organismes qui représenteront les salariés qui pourront participer aux conversations. Et ça, c'est important, quoi.
De toute manière, je pense que c'est peut-être fondamental de pouvoir, à un moment, changer cette mécanique. Parce que, voilà, on parle des États-Unis, on sait que ça arrive aussi en France. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Konami avait été aussi épinglé pour des histoires, justement, de crunch, etc.
Ah oui, Konami, c'était carrément de la cruauté, c'était de la torture qu'ils faisaient. Il y avait des trucs absolument invraisemblables. Et c'est au Japon, c'est encore d'autres problèmes. Mais ouais.
Et tu vois, je pense qu'il faut terriblement que en fait certains rouages soient changés. Alors du coup, ça sous-tend de réfléchir à plusieurs sous-problématiques de pourquoi est-ce que on s'oblige à sortir un jeu dans des délais courts, puisque finalement il y a ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à sortir un jeu dans des délais courts?
Je précise sur Anthem quand même, n'oublions pas qu'il était en pré-prod depuis 2012. C'est pas un jeu qui a été en développement pendant peu de temps, et c'est vraiment un cas particulier. Anthem, c'est vraiment un jeu où les ratés sont pas juste les ratés classiques de l'industrie, c'est des problèmes très sérieux qui sont chez BioWare, et ce problème d'indécision et de management qui n'a pas réussi à prendre le taureau par les cornes. mais en plus de tout le reste. Donc, sur Anthem spécifiquement, les temps de développement n'étaient pas courts. Mais d'une manière générale, dans l'industrie, c'est effectivement ce que tu dis. Ça peut être le cas.
Ouais, les temps de dev, les budgets, le management. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas que. On sait qu'il n'y a pas que chez. La BioWare a été mis sur le devant de la scène, mais on sait que dans d'autres boîtes de dev, il y a aussi des problèmes de management qui sont pointés du doigt. Donc, tu vois, je pense qu'en fait, ça nécessite aussi de revoir, de repenser tous ces rouages-là pour pouvoir arriver à quelque chose de plus sain. Et j'espère que justement ces articles successifs de Canard PC Mediapart, de Jason Schreier,
sur Quantic Dream il y a un an effectivement, qui avait mis le point sur ces problèmes.
Sur Red Dead Redemption 2 aussi. J'espère que tout ça va commencer à faire bouger ça, mais rapidement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir quelque chose dans les années à venir.
Moi, je crois vraiment que la question de la syndicalisation du jeu vidéo est le moyen de faire. C'est ramener un équilibre dans ses forces. C'est tout bête parce que on aura beau dire il faut pas que les grandes boîtes fassent des choses méchantes. Oui, il faut effectivement, mais avec des si, je sais pas, ça n'a pas d'action concrète. Il faudrait, c'est très bien, mais l'action concrète qu'on peut avoir, c'est donner de la voix et de la force aux employés par des syndicats de l'industrie. Et ça, c'est pour moi le seul moyen de le faire de manière réaliste et effective. Au-delà de ça, l'article est hyper intéressant sur Anthem spécifiquement et sur le cas d'Anthem. Et comme tu le disais, il met beaucoup l'accent sur les questions de stress et de crunch et de burn-out dont ont été victimes les employés de BioWare. Il mentionnait d'ailleurs le fait que Dragon Age Inquisition avait déjà été développé dans des conditions de course marathon, de sprint marathon en fait. Et les employés disaient, on espérait que le jeu se plante presque parce qu'on ne voulait pas avoir à refaire ça. Et si le jeu ne se plantait pas, on se disait que ça marcherait. Et du coup, le jeu a bien marché, Inquisition a été très bien reçu. Et donc, ils sont repartis sur le même délire pour Anthem, ce qui a donné ensuite un résultat encore plus dramatique. On a eu des réponses à l'article de la part de BioWare qui étaient... Enfin, c'était hyper... maladroit comme réponse, parce que d'une part, ils ont répondu suite à un très court résumé qu'avait envoyé Schreier pour les informer quelques jours avant, et ils n'ont pas lu l'article et ils ont répondu au résumé en ratant complètement le fond de ce dont parlait l'article parce qu'ils ne l'avaient pas lu. Donc ça, c'était un gros problème. Et puis ensuite, Casey Hudson, donc le type qui avait initié Anthem, qui est parti et qui est revenu pour gérer le studio dans son ensemble, a envoyé un email interne en disant « Bon, parlez pas à la presse, mais on est au courant des problèmes, on en est conscient, on va essayer de travailler pour les résoudre. » Et Dieu merci qu'il y a au moins cette... acceptation du problème, parce que leur première communication officielle, leur blog de dev, était complètement à côté de la plaque. Ils disaient des choses du genre « On ne pense pas qu'il soit constructif de briser le travail des gens », alors que c'est pas du tout ce que fait l'article. Pas du tout. Mais... JK, on a beaucoup monopolisé la parole. Pardon ouais. Marie, tu veux ajouter quelque chose avant que je donne la parole ? Oui, on t'entend, JK.
J'ai eu un souci de micro, c'est pour ça.
D'accord. Mais Marie, je t'ai entendu, je crois. Tu voulais ajouter quelque chose avant que je donne la parole à JK ?
Non, pas du tout.
D'accord. Bon, JK, vas-y, dis-nous.
Non, mais alors, vous avez extrêmement bien résumé tout et le fond de ma pensée. C'est dramatique parce que à la fin, ça donne un jeu en plus qui est pas bon, en fait. Ça épuise des équipes pour quelque chose en plus qui est vraiment raté. Alors je sais pas si vous l'avez dit, mais
là encore, c'est particulier quand Anthem soit raté, parce que tous les jeux qui sont réussis, pas tous, mais une partie des jeux qui sont réussis sont aussi développés dans des conditions similaires.
Non, mais oui, mais je suis d'accord. Oui, je sais pas si vous l'avez dit, parce que j'ai eu un petit souci. A priori, donc, parce que j'ai compris, je sais pas si c'est dans l'article ou si ça a été dit hier, je me souviens plus. A priori, c'est BioWare Austin qui va reprendre un peu la main sur les mises à jour et l'évolution d'Anthem, parce que d'une, je pense peut-être qu'ils ont enfin pris conscience qu'ils étaient peut-être plus compétents vu que The Old Republic, même si c'est un jeu qui n'a pas très bien marché, ça reste un super MMO. Et derrière, évidemment, BioWare Edmonton va passer à temps plein, j'imagine, sur Dragon Age 4. Et Et apparemment, Dragon Age 4, je crois que dans l'article, il y a une mention très rapide de Dragon Age 4 de Jason Schreier, où tu sens qu'il a aussi des infos sur Dragon Age 4 et que ça a l'air d'être compliqué. Donc de manière très personnelle en tant que joueur de vieux joueur de 38 ans, ça me rend triste parce que BioWare c'est un studio que j'ai toujours admiré. Enfin, c'est vraiment le studio qui a sorti quelques-uns de mes jeux préférés entre la trilogie Mass Effect, Baldur's Gate. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Et voir la direction qu'ils ont pris et le fait qu'ils se soient plantés alors avec Andromeda déjà il y a quelques temps, puis Anthem. Là, je me dis s'il se replante avec Dragon Age 4, est-ce que derrière il va pas y avoir tout simplement une fermeture du studio ou quelque chose, finisse mal comme ça.
C'est sûr que avec Mass Effect 3 et Anthem, ça fait des plantages compliqués, ouais, quoi. Donc.
Parce que non seulement c'est des plantages critiques, mais c'est des plantages. Alors, je connais pas les chiffres de vente d'Anthem, mais j'ai l'impression que ça s'est pas extrêmement bien vendu. En plus, derrière, t'as The Division 2 qui a débarqué juste après, qui, dans le même genre, même si c'est pas le même univers, mais ça reste du jeu service, ça a l'air d'être beaucoup plus convaincant et de se vendre mieux. Mmh. Donc, le pauvre Anthem, est-ce qu'ils vont tenir le coup quand même et est-ce qu'ils vont faire évoluer le jeu jusqu'à ce que, dans un an, on ait un jeu enfin, on attendait. Je pense qu'ils ont pas le choix, mais est-ce qu'ils vont avoir les ressources financières, le temps, la motivation. Effectivement, si c'est BioWare Austin qui reprend le truc, peut-être que effectivement.
Ouais. Alors visiblement, d'après ce que j'avais cru comprendre, il s'était pas trop mal vendu à la sortie, Anthem, aux États-Unis en tout cas. Par contre, je crois que sur les semaines et les mois et suivants, les ventes vont s'effondrer, avec raison évidemment.
Avoir ce qu'ils font d'ici un an. Il y a tellement calamiteux que...
Ouais. Ouais, donc j'ajoute une dernière note pour dire que quand même la plupart des développeurs qui ont l'habitude du développement disent que le crunch est pas une bonne chose pour l'industrie. C'est-à-dire que pour développer des jeux et pour garder les talents qui deviennent experts, l'idéal c'est quand même de pas cruncher. Enfin, cruncher, oui, c'est normal dans tous les projets. Il y a un moment où il faut mettre les bouchées doubles et bosser plus pour boucler un truc, mais c'est tellement extrême dans l'industrie que ça devient plus que critiquable, comme on le dit souvent. Mais même les développeurs eux-mêmes disent le crunch constant, c'est pas viable, c'est pas possible, et ça mène à de moins bons jeux et de moins bonnes sociétés que si on réussissait à gérer les choses avec du crunch comme on le connaissait il y a, je sais pas, 10-15 ans, je vais même pas dire il y a 10-15 ans, mais un crunch sur 2 mois pour finir un jeu, ok. Un crunch sur 1 an et demi pour faire un jeu, non.
Même 6 mois.
Et voilà. Et ça, les gens... Et le crunch, c'est tu rentres pas chez toi le week-end ou tu restes au boulot jusqu'à 10-11 heures minuit et puis tu reviens à 8 heures. C'est juste pas possible. Et les développeurs eux-mêmes le disent. Il y a plein de boîtes, enfin plusieurs boîtes, où ils se battent contre autant que possible parce que c'est pas juste que c'est pas bien pour les êtres humains qui souffrent, c'est que en plus de ça c'est pas bien pour la boîte, pour les jeux, pour l'industrie. Donc c'est pas juste des gens un petit peu idéalistes qui disent oh il faudrait pas bosser beaucoup. Non c'est pas juste ça.
Bah il y a quelque temps j'avais eu l'occasion de rencontrer Romain de Beaubert qui est le fondateur d'Amplitude Studio, qui est un studio français qui fait Endless Space, et eux ils sont un peu connus comme étant justement une des boîtes les plus saines là-dessus, où ils respectent pas mal le temps de travail des employés. Et il m'avait dit, on avait parlé de ça, il m'avait dit le souci c'est que quelqu'un qui crunch et qui est en burn-out, il va quitter non seulement le studio et en plus il va quitter le jeu vidéo, et donc du coup c'est une perte de talent inestimable en fait pour l'industrie du jeu vidéo, parce que c'est ces gens-là qui sont compétents, qui sont talentueux, ils sont tellement dégoûtés du truc qu'ils vont juste quitter le milieu et ils vont aller ailleurs, quoi. Donc c'est pas viable évidemment à moyen terme, peut-être à court terme ça permet de sortir ton jeu dans les temps, mais sur le long terme c'est pas viable du tout, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, vas-y Marie.
Oui, merci. Pour pouvoir avoir une idée de l'ampleur des dégâts du crunch, dans certaines boîtes, c'est même pas entre guillemets juste partir à minuit et revenir à 8 heures. Je me souviens que justement dans l'article qui décrivait le crunch de chez Rockstar pour Red Dead Redemption 2, des développeurs, des employés racontaient que il y en a qui dormaient là-bas, et Rockstar avait mis en place un système de comment on appelle ça, de laverie, mais qu'en gros les gens avaient tellement pas
de pressing pour laver leur
vêtement. De pressing. Exactement. les employés n'avaient tellement pas le temps d'aller laver leur propre linge chez eux que du coup ils avaient mis en place ce service de pressing pour que les gens puissent avoir des fringues propres. Enfin, ouais. C'est fou en fait.
C'est
on
clair.
En est à ce stade-là.
Et il y a beaucoup de grosses boîtes qui se battent autant que possible contre le crunch. On sait que Blizzard, par exemple, essaye autant que possible. Ubisoft essaye beaucoup. Il y a des initiatives genre des coop. On pense à Dead Cells, Damned, le développeur de Dead Cells.
Motion Twin,
oui. Voilà. Qui... Bon, ça, c'est un truc qui marche peut-être à plus petite ampleur, mais c'est en fait une coop où ils sont tous...
tous payés au même niveau.
Au même niveau, etc. Donc, il y a des alternatives qui se développent, mais bref, on a beaucoup parlé du crunch et c'est évidemment un problème hyper important qui est levé par cet article. Il y en a beaucoup d'autres et on en a parlé aussi, le problème d'indécision, les problèmes de Frostbite. Et au final, c'est vraiment, je pense, l'un des plus gros accidents industriels qu'on ait vu dans cette industrie, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui sont pas super, des jeux où on nous promet des trucs qu'on voit pas au final, ça arrive tout le temps. À ce point-là, c'est vraiment, ça confirme tout un tas de choses qu'on avait ressenties avec le lancement du jeu il y a quelques semaines. Et c'est une ampleur qui est rarement vue dans l'industrie. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a des choses qui sont présentées par le spectre, par la vision de ces développeurs-là qui ont voulu parler à Schreier, mais... comme je le disais, ça fait quand même beaucoup et tout se corrobore. Donc, il doit quand même y avoir du vrai aussi.
De toute manière, l'état du jeu à sa sortie...
il parle de lui-même.
Voilà, exactement.
Ouais. Bon, parlons de quelques news un petit peu plus rapidement. Borderlands 3 sera disponible le 13 septembre en exclusivité sur l'Epic Game Store, sur PC et sur PlayStation 4 et Xbox One, évidemment. Plusieurs choses à dire. Est-ce que vous avez regardé la présentation qu'a fait...
Non, j'ai pas le courage. Randy Pitchford.
Voilà, Randy Pitchford.
C'était un peu awkward, non ? C'était un peu...
Ah, mais non, je pourrais faire toute une... 10 minutes sur la présentation, c'était une heure de présentation. Alors, c'était très bien au début, ils se sont dit « Ah, on a votre attention, on va vous présenter d'autres choses qu'on veut faire ». Ils ont présenté un quart d'heure de leur boulot d'éditeur, très bien, pas de problème, ils ont mis en avant d'autres jeux. Et puis après, c'est parti, ils ont présenté un jeu de cartes, ok, pourquoi pas. Et Randy Pitchford, qui est déjà un type bizarre, c'est le président de Gearbox, il s'est dit « Ah, mais on a des cartes. Ah, mais je suis un magicien. Ah, ben, je vais vous faire un tour de magie. » Et il a passé mes 10 minutes, je ne sais pas, 10 interminables minutes à faire son tour de magie, qui était pas mal en plus. Il est bon magicien, le mec. C'était impressionnant. Mais on est là pour voir...
C'est juste pas le moment, ouais.
Non, mais vraiment, vraiment. Et on est là pour voir Borderlands 3. Finalement, il commence à annoncer les trucs Borderlands. Un remaster qui arrive en avril, là, bientôt, sur PC, PlayStation 4, Xbox, avec tout le contenu des Borderlands 1 et 2 jusqu'à maintenant. Super sympa. Sauf que la vidéo, merde. Ça fait la vidéo hyper hachée, hyper... Elle saccade. Et là, on se dit, mais alors, pour le Borderlands 3, quand ils vont l'annoncer, ça va faire la même chose. Eh ben oui, le truc ne marche pas. Et il ressort Pitchford et dit, bon, OK, ça a pas super bien marché, mais là, on m'a dit que ça a été réparé. Vous voulez la revoir ? Ouais, super. Tout le monde qui crie à la PAX dans la salle, tout le monde content. Et il la relance, c'est encore saccadé. Et là, le type, alors il gérait bien le truc jusqu'à maintenant, mais à ce moment-là, il a dit des trucs genre « Bon, on aurait vraiment dû venir avec notre propre matos parce que les gars de la PAX, ils sont pas très bons. » Enfin, le truc à ne pas dire, quoi. Mais enfin, tu le comprends, en même temps, il était complètement paniqué.
Ah oui, quelle angoisse.
Et on parlait de crunch et tout ça, c'est les gens qui ont bossé tellement dur pour arriver à ce moment où on présente le jeu au monde et ça merde comme ça. C'était... Oh, mais cette présentation, c'était cringe, mais c'était malaisant à un point. Oh là là. Enfin bref. C'est pas ça qui est le plus important. Le jeu Borderlands 3 a l'air d'être hyper sympa, a l'air d'être vraiment dans la tradition des Borderlands, ce qui est à la fois une bonne chose parce que les fans de Borderlands, je pense, seront contents. Il y a plusieurs environnements. On a vu des villes, des trucs qu'on n'avait pas vraiment vu dans des villes futuristes, des trucs qu'on n'avait pas vraiment vu dans Borderlands jusqu'à maintenant. Et puis en même temps, ça fait tellement longtemps que le 2 est sorti. Moi, je suis un petit peu, je me dis un peu, ok, c'est très cool, mais est-ce qu'on n'aurait pas voulu avoir autre chose, faire évoluer la formule un peu ? Et peut-être que ça arrivera parce qu'ils ont passé tellement de temps à faire des tours de magie qu'ils ne nous ont pas présenté quoi que ce soit du jeu en lui-même. Mais peut-être qu'il y aura des trucs intéressants. Mais je ne dis pas qu'il faut des Battle Royale. D'ailleurs, ils ont fait la blague. Mais je suis un petit peu sur ma faim quand même. Je ne sais pas.
Bah là, le truc, c'est que le jeu, entre guillemets, que pour lui, son univers et son humour, a priori, parce que, enfin, en tout cas, le 2, c'était un jeu quand même qui était super drôle. Parce que le souci, c'est que des jeux comme ça, de FPS, TPS à loot, bah, il y en a eu plein depuis. Il y a eu Destiny, il y a eu The Division, et bon, il y a Anthem dans un genre vraiment réussi.
Il y a Warframe, donc, il y en a plein, ouais.
Une recette qui a été plus ou moins inventée par Borderlands, parce qu'à l'époque, c'était novateur. Bah, aujourd'hui, bon, bah, c'est juste un FPS à loot, en tant que, enfin, un FPS service, je sais pas comment ça va être vendu, mais de plus, dans un univers post-apocalyptique mais rigolo, donc comme Rage 2, comme en ce moment c'est la mode aussi. Donc en fait, le truc, c'est que les pauvres, entre guillemets, ils étaient précurseurs il y a quelques années là-dessus, sur ce genre d'univers, ce genre de jeu. Là, ils arrivent comme un truc qui ressemble finalement à pas mal de trucs, quoi.
C'est après, ça qui me gêne un petit peu, ouais.
Ouais, moi aussi. J'y jouerai avec plaisir parce que le 2 était vraiment très très chouette. J'ai presque envie de me le refaire là, du coup, en version remaster.
Ouais.
Mais voilà, quoi. Finalement, ouais. C'est pas tant un événement que ça, quoi.
Ah ouais, on verra. Bon, il a l'air cool, hein, toujours, bande-annonce rythmée, etc. Mais l'autre truc qui a marqué, c'est, étant donné qu'il est exclusif sur l'Epic Game Store sur PC, il y a plein de joueurs énervés qui sont allés review bomber Borderlands 2 sur Steam. D'ailleurs, ça a activé pour la première fois le système où Steam ne compte pas les reviews dans une période de review bomb pour ne pas dénaturer l'appréciation du jeu pour des acheteurs potentiels qui veulent juste savoir si le jeu est bien ou pas.
C'est juste.
Ouais. Bon, c'est un petit peu... Je sais pas...
C'est ridicule. Je trouve ça d'un ridicule. Enfin, arrêtez de faire ça, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre que c'est une exclue excusez-moi, je m'énerve. Qu'est-ce que ça peut vous faire que c'est Epic Game Store? Déjà, le développeur va gagner un peu plus d'argent, donc c'est bien pour eux. Et puis, ça sort sur PC, donc je comprends pas cette espèce de haine contre nouvelle. Enfin, bon, après, j'imagine que c'est une minorité bruyante et les gens qui review bombent le truc, c'est sans doute une portion infime de joueurs, mais c'est tellement, enfin, c'est débile. Enfin, je veux dire, c'est comme si une exclusivité qui sort en exclus sur PS4, je sais pas, l'autre jeu en exclus sur PS4 se prend des mauvaises notes. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est le même genre de raisonnement qui n'a pas de sens, quoi.
C'est pas la meilleure manière de communiquer son contentement, en tout cas, de descendre d'autres jeux, enfin, les jeux précédents qui, pour le coup, ont été appréciés, quoi.
Le pauvre Borderlands 2, voilà, qui a rien demandé.
Disons que, ouais, pour me faire vraiment l'avocat du diable, je dirais que c'est un moyen d'expliquer, de montrer à l'éditeur ou au développeur que tu n'apprécies pas ces pratiques commerciales. En tirant très loin le fil, je peux comprendre le truc. Il y a des gens qui disent « Oui, mais sur l'Epic Game Store, il y a plein de fonctionnalités qu'on n'a pas sur Steam. » Ok, bon. Mais j'ai passé quelques heures ce week-end à discuter de ça sur Twitter avec des gens. Et dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... j'aime bien le terme de « man babies » maintenant, pour décrire ce genre de comportement. C'est vraiment très enfantin comme attitude. Mais... Et donc, c'est juste qu'ils sont pas contents, ils aiment pas. Et certains disent, oui, l'Epic Game Store a eu des problèmes de sécurité. Moi, je veux pas avoir un store qui est pas sécurisé, machin. Enfin bon, c'est des plaintes complètement parallèles au vrai problème. Et surtout, il y a plein de gens qui comprennent pas le problème du monopole qu'a Steam aujourd'hui.
C'est ça, en plus.
Et quand j'essayais d'expliquer, mais... Il faut, le monopole est tellement énorme sur Steam, il est tellement puissant que les joueurs n'iront pas sur un autre store s'il n'y a pas d'exclusivité, donc elles sont nécessaires pour rééquilibrer pour avoir au moins une alternative à Steam sur le marché du PC. Ce que répondaient les gens qui n'étaient pas contents, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns, ce qui répondait, c'était « Ah, mais donc, pour combattre un monopole, ton idée, c'est de créer un autre monopole pour certains jeux ?» Bravo, bien joué, mais une vision à 2 mètres, complètement myope, et aucune compréhension du fait que ça allait avoir des conséquences sur l'industrie en général, au-delà du fait que c'est une autre icône à cliquer sur le truc, oui, il y a moins de fonctionnalités, bon, voilà. Ou alors, il disait, ah, bah donc, tu voudrais amener les systèmes des consoles sur le PC pour qu'on ait des exclusivités, nous aussi, alors que tout le monde s'en plaint sur console. Ce qui déjà n'est pas le cas. Si on réfléchit un instant, les exclusivités nous ont donné des jeux absolument phénoménaux sur console et ailleurs d'ailleurs. Le jeu qui a lancé Steam, n'oublions pas que c'était Half-Life 2 qui était disponible que sur Steam. Donc, et le truc, c'est que sur Steam, Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais donc Epic paye pour avoir des exclusivités, c'est une attitude commerciale déloyale, machin. » Les gens se rendent pas compte que Steam est tellement puissant qu'ils n'ont même pas besoin de payer pour avoir les exclusivités. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui mettent leurs jeux que sur Steam parce que le truc est tellement omniprésent qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Et bon, si ensuite on peut pas, il faut expliquer les problématiques que posent les monopoles. On en a parlé dans cette émission déjà, mais par rapport aux développeurs qui sont aussi des clients de ces stores, c'est hyper problématique pour eux au niveau de la du pourcentage qu'ils prennent, mais pas que, et ça se répercute évidemment sur les joueurs ensuite. Steam a tout pouvoir sur le marché du jeu PC, c'est pas sain. Bref, enfin bon, on en a déjà parlé, mais les gens qui s'en plaignent voient vraiment pas plus loin que le bout de leur nez, quoi.
Il y a aussi autre chose qui est pas mal ressorti, c'est le fait que qu'on puisse plus centraliser sa bibliothèque de jeux, mais je pense que c'est une idée qu'il faut vraiment abandonner parce que depuis quelques années, il y a une multiplicité des clients, des launchers, qui fait que je pense que malheureusement, c'est plus possible de pouvoir centraliser tous ces jeux à un seul et même endroit.
Oui, 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 non, mais c'est sûr. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est pas juste, c'est comme ça, deal with it, c'est dommage, mais voilà, c'est que c'est ce qu'on gagne à avoir plusieurs stores compense largement ce qu'on perd, c'est-à-dire l'aspect pratique de pouvoir avoir tous ces jeux dans un même endroit. Bref, enfin bon, tout ça à propos de Borderlands 3, quand je disais que Metro Exodus serait peut-être la dernière polémique parce que c'était un jeu qui était d'abord en précommande sur Steam et qui ensuite est devenu exclusif sur l'Epic Game Store, ce qui pouvait se comprendre, on pouvait comprendre que les gens soient moins contents. Là, ça se reproduit avec Borderlands 3, mais en même temps, bon, voilà, les Metro Exodus c'est super bien vendu sur l'Epic Game Store, donc tous ces gens qui se plaignent, je pense que ils sont au moins une minorité, et au plus, bah, ils iront y jouer sur l'Epic Game Store, et voilà. Donc, oui. Ça. Mais bon, tout ça pour dire que Borderlands 3 arrive le 13 septembre, c'est plutôt une bonne chose, on attendra d'avoir plus d'infos sur le jeu. Risk of Rain 2, qui a été annoncé, je crois que c'était dans un Nintendo Direct il y a quelques semaines, il est en Early Access, bah sur Steam, justement.
Nintendo Direct, non, je pense pas, parce que le jeu n'est pas dispo
Mais oui, non, je suis bête, pas Nintendo Direct, c'était...
Le 1 est dispo sur Switch, mais pas le 2.
Mais il a été... C'était peut-être dans le State of Play, non, puisqu'il n'est pas sur PlayStation.
Je crois que c'était peut-être à la GDC, bon, je ne sais plus, mais...
Peut-être à la GDC.
Parce que en gros, la sortie, l'annonce est la sortie à peu près collée avec la GDC, donc ça se trouve, c'était annoncé durant la GDC. Enfin, à l'occasion de la GDC.
Et du coup, moi, j'étais complètement passé à côté du 1, et le 2 est le même en 3D, c'est ça? Ah, mais non, pardon, c'était justement Gearbox qui l'avait annoncé pendant l'annonce de Borderlands 3, parce que c'est Gearbox qui le publie, donc ça devait être là-bas. Okay. Ouais.
Ok, d'accord. Ouais, non, alors oui et non, c'est-à-dire que effectivement.
C'est quoi déjà Risk of Rain?
Alors je vais essayer de faire rapide. C'est un pur roguelite en termes de mécanique de jeu, puisqu'on est sur un truc avec une suite de niveaux qu'il faut recommencer à chaque mort. Et on est sur un truc très très action. On doit éradiquer un maximum de monstres, et surtout dans chaque niveau, le but c'est de trouver le téléporteur. Et au moment où on active le téléporteur pour passer au niveau suivant, il y a un boss qui apparaît, donc il faut battre le boss et attendre que le téléporteur soit à 100% pour s'échapper. Voilà, ça c'est le truc de base. Et pendant ce temps, on flingue des monstres. C'est énormément de monstres à l'écran et ça tire de partout, on est quasiment en tout cas dans la version 3D. Il y a un côté un peu manic shooter où on doit slalomer entre les tirs, etc. Le petit twist, c'est que le jeu, en fait, plus on passe du temps, plus on joue, en fait, plus le jeu devient difficile. C'est-à-dire qu'il y a une jauge de difficulté qui augmente progressivement, automatiquement dans le temps. Donc toute la subtilité, c'est de savoir combien de temps tu passes dans chaque niveau, parce qu'évidemment toi-même tu gagnes des niveaux quand tu tues des monstres, tu deviens plus fort, tu récupères des items, etc. Mais en même temps, le jeu devient plus dur. Donc, est-ce que tu préfères rusher pour garder le fait que ce soit facile, mais en étant moins bien équipé, ou est-ce que tu préfères prendre ton temps? Et voilà, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre ces deux aspects-là. Et le 1, en fait, c'était vraiment un jeu très minimaliste, hein, en 2D pixel art, assez simple et dans son style très très mignon, hein. Et le 2, en fait, il a été annoncé il y a longtemps, le 2, et quand on a vu les premières images, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont passés en 3D, en vue TPS, avec un FOV, donc un champ de vision très très large. avec un style très 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 low poly, avec des gros aplats de couleurs. Enfin, je trouvais ça très moche, honnêtement, bah, sur les premières images que j'avais vues. Et bizarrement, en y jouant, le miracle s'est produit parce que je trouve ça super chouette. Visuellement, c'est très particulier. Je peux comprendre. Je sais que nous, enfin nous, quand je dis nous, on en a parlé dans ZQSD la dernière fois et il y avait pas mal de gens qui, au contraire, trouvent le jeu toujours aussi moche. Moi, je trouve ça très très intéressant comme design. Et surtout, il y a un jeu d'échelle en fait que la 3D permet. On affronte certains boss et certains monstres qui sont gigantesques par rapport à toi qui est tout petit. Et c'est vraiment super agréable. Au-delà de ça, alors c'est de l'early access. Hein, faut préciser. Donc aujourd'hui, il y a 4 ou 5 niveaux, je crois, d'affilée, et on recommence en fait au début, en étant en New Game Plus, un peu avec plus de difficultés. Il y a, je crois, 4 classes à débloquer qui sont très différentes. Mais le truc, c'est pour un early access, c'est déjà très très propre, très très jouable. Il y a du contenu. Mais pour le moment, disons que le contenu, en fait, est assez proche de ce qu'on avait dans le 1 en termes d'objets à trouver, en termes même d'ennemis, mais le tout transposant en 3D et moi, je trouve même le 2, enfin, plus intéressant à jouer, en fait. Ne serait-ce que par rapport à la 3D, le côté un peu gestion de la foule aussi. Il y a presque ce côté hack and slash, encore une fois, dans un autre genre, où on doit contrôler le pack d'ennemis pour éviter de se faire encercler. Ça joue beaucoup sur ta position dans l'espace pour vaincre les ennemis. C'est vraiment, vraiment, vraiment super chouette et c'est très addictif, quoi. C'est-à-dire des fois, une partie va durer 3 minutes parce qu'on se fait tuer bêtement et on recommence direct, en fait. On n'a qu'une envie, c'est de recommencer une partie. C'est chouette, enfin, vraiment c'est une très bonne surprise pour moi.
Ça donne envie, j'ai presque envie d'aller dépenser mes 15 euros tout de suite.
Après, faut aimer le côté roguelite, de recommencer beaucoup, voilà, de recommencer, de passer son tour à recommencer et de recommencer à zéro. Mais il y a une bande son qui est formidable. C'est le même compositeur, c'est Chris Christodoulou, qui est un compositeur très talentueux, et la bande son très très planante, avec du synthé et tout, elle est excellente.
Bon, écoute...
Bonne petite surprise pour moi.
D'accord. Comme je disais, je me demande si je vais me laisser tenter, même
ça
si
se
j'avoue
tente, hein,
que...
franchement.
Oui, j'ai tellement
après,
de...
il faut aimer... Je ne sais pas si tu aimes le roguelite, mais...
qui n'aime pas les roguelites?
Je connais des gens qui aiment pas ça, hein, qui trouvent ça absolument nul. Enfin, très, 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 très répétitif, quoi. Je peux comprendre aussi. Hein.
Ouais. Écoute, à voir. Quoi d'autre? On va peut-être faire une petite rapide fire avec quelques news à la suite. Vous m'interrompez s'il y a des trucs que vous voulez ajouter. World War Z, qui est un jeu qui ressemble vraiment à Left 4 Dead, va sortir le 16 avril. La dernière vidéo de présentation semble pas trop mal. Franchement, je suis... on va pas dire optimiste parce que on n'en sait pas assez, mais je suis curieux, je suis intrigué, on va dire.
Tu sais si c'est adapté du film ou du livre ou
du film,
vu
le nom,
j'imagine, oui. Ouais, du
c'est,
film, okay.
C'est du film, ouais, pas du livre. Donc ça ensuite, c'est laissé à l'appréciation de chacun si le film était mieux que le livre ou pas. Le livre était mieux, mais c'était peut-être moins cinématique. Assassin's Creed Vikings serait possiblement le prochain. On sait qu'il sortira pas cette année. A priori, ils font une pause en 2019, ça sera 2020, mais ça serait peut-être chez les Vikings. C'est des éléments de jeu qui ont été ajoutés à The Division 2 qui le laissent penser.
Bon retour des bateaux, du coup.
Possible, oui, effectivement.
Bah, si c'est les Vikings, je vois pas trop comment il y aura pas de bateaux.
Comment les ne pas les... Oui, effectivement. Oui.
Ce sera un chouette environnement, en tout cas.
Ouais, moi qui suis très nordique ces derniers temps, je serais curieux de voir ce que ça donne.
Ça fera un triptyque intéressant avec Origins et Odyssey.
Ouais, c'est vrai, ouais. Bethesda a annoncé qu'il ne montrerait ni Starfield ni Elder Scrolls 6 à l'E3 2019. Et
triste,
ça
mais normal.
Mais... moi, en fait, je me bats contre cette facilité qu'ont les... Enfin, je me bats, non. Je suis frustré de cette facilité qu'ont certains studios de développement qui est d'annoncer des jeux sans avoir rien derrière et ensuite de plus en parler pendant des années parce que pour moi, c'est de la malhonnêteté, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont montré 2 images de Starfield et 1 image de Elder Scrolls 6 pour nous faire passer la pilule de Fallout... c'est le numéro combien? 64
76.
Voilà. Et Elder Scrolls Blade à l'E3 de l'année dernière. Et en fait, ça a fait quoi? Ça a modifié l'image qu'ont les joueurs de la société et par répercussion des autres jeux, au lieu de se baser sur les mérites des jeux en question, c'était vraiment de la poudre aux yeux, et moi j'apprécie pas. C'est comme Nintendo qui annonce Metroid Prime 4, alors qu'ils ont rien de rien du tout. Et évidemment, c'est lié au fait que certains joueurs qui étaient mécontents voulaient que Blizzard annonce Diablo 4 officiellement, même avec juste une slide de PowerPoint, ça aurait été. Moi, je trouve que c'est pas hyper honnête de faire ce genre de choses. Bon, oui, vas-y Marie.
Là, pour le coup, je pense que c'est... alors, c'est pas vraiment... Alors, on est sur de l'effet d'annonce, mais je pense que c'est juste... je pense que c'est surtout qu'ils ont dû être... je pense que c'est deux questions qui devaient revenir à peu près quotidiennement des centaines de fois. Et quand est-ce que vous sortez Elder Scrolls 6 et quand est-ce que vous sortez Starfield? Sachant que Projet Starfield, à la base, ça s'appelait Projet Starfield. C'est quelque chose qui était rumoré depuis des années. Donc déjà, on sait que c'est au moins en pré-prod depuis des années. Elder Scrolls 6, bon, bah, il n'y avait pas de. Voilà, on n'avait pas d'infos là-dessus, mais Elder Scrolls 5 Skyrim étant sorti fin 2011, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que ça a commencé à faire un petit bout de temps. Je pense que c'est surtout une réponse. À mon sens, qui vise à dire, écoutez, ça existe, arrêtez de nous poser la question. Voilà.
Ouais, ça, ils auraient pu le faire avec un communiqué de presse au milieu de rien, le présenter à l'E3 après avoir montré Fallout 76.
Grand public, et... communiqué de presse.
Non, mais ils auraient lu quelques articles, les gens qui s'y intéressent. Franchement, Starfield, j'ai pas l'impression que l'ensemble des gamers se demandaient ce qu'était Starfield. C'était un truc qui était relativement anonyme encore.
Ouais, c'était rumoré, mais discret. Ouais.
Je crois qu'on sait qu'il me semble qu'ils l'ont confirmé que Starfield sortirait avant Elder Scrolls 6. Donc vraiment, on est sur des projets à très long terme. Enfin, TES 6, c'est clairement pas tout de suite. Mais là juste bah, après cette année, Bethesda, on va peut-être parler un peu de Doom, mais à part Doom, je sais pas ce qu'ils vont présenter quoi. Enfin, il y aura un nouveau arcade.
Il y a le spin-off Wolfenstein.
Oui. Mais qui sort, tu crois qu'il sortira pas avant le 3? Bah non, ouais, non.
Je crois qu'on avait une date.
Il sortira probablement après, ouais.
Je crois qu'on avait une date pour le
Wolfenstein. Qui a l'air trop cool en plus.
Ouais. Après, c'est vrai qu'ils font un roulement, ils ont une espèce de. Ils ont une sorte de roulement qui fait que. Enfin, je sais pas, ils ont à peu près 6-7 jeux phares, enfin 6-7 licences phares. Et du coup, chaque année, c'est une licence qui prend le lead, ce qui permet aux autres de pouvoir continuer de travailler dans leur coin. Donc, cette année, en tout cas, on sait que ce sera Doom.
Mais là, pour le coup, franchement, la présentation de Starfield et de Elder Scrolls, à la limite, tu fais une démo, tu montres un truc, tu montres quelques images. Mais là, c'était tellement artificiel, tellement...
Ah, le 3, c'était...
C'est
une entourloupe, quoi. C'est une entourloupe qui vise à tromper les joueurs, à te donner du crédit, alors que t'as rien à derrière. S'ils le montrent toujours pas cette année, rien du tout, c'est que vraiment, il y avait rien derrière. Ou alors, ils sont repartis à zéro. Ou alors,
après, il y a un truc particulier à Bethesda.
C'est pour rassurer aussi.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc particulier à Bethesda, c'est qu'ils font aussi de la com à très court terme. Généralement, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que quand ils annoncent un jeu, même un gros jeu, tu sais qu'il sort dans les mois qui suivent.
Ça fait un moment qu'ils font ça,
ouais.
Et donc, je pense que la prochaine fois qu'ils en reparleront, c'est que le truc sortira, quoi.
Exactement. Et c'est pour ça que c'était tellement pas innocent et bizarre d'en parler tellement de temps à l'avance. C'était pour l'entourloupe. C'était pour faire passer la pilule des autres trucs. Moi, j'y crois pas à cette idée que c'était pour rassurer les gens. Enfin, Skyrim, il est sorti il y a 8 ans. Ils auraient pu présenter Elder Scrolls 6 avec cette vidéo qui ressemble à rien à plein d'autres occasions. Bon, peu importe, c'est un truc qui est très personnel.
Même fait avant.
Exactement.
C'est tellement évident qu'il allait y avoir une suite à Skyrim vu son succès. C'était tellement évident que pour m'épargner le fait que justement d'avoir cette demande quotidienne de la part de milliers ou de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de joueurs, je l'aurais fait bien avant de dire écoutez, oui, il est en production, maintenant laissez-le. Ouais.
Bon, justement, il y a la QuakeCon. En juillet, fin juillet, où visiblement ils vont montrer ils vont commencer l'année de Doom, the year of Doom, qui est une manière de présenter les choses qu'ils ont mis en avant là il y a quelques jours. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus que Doom Eternal? Parce que the year of Doom, ça veut dire qu'il y a plus que Doom Eternal, non? C'est pas possible.
Non, je pense pas.
Au
non.
mieux, il y aura du remaster ou un truc. Il y a John Romero qui va venir présenter son mode de Doom. Je pense pas, mais ou un film. Ah, mais d'ailleurs, il y a un film en production. J'avais oublié. Oh, si ça se trouve, il y aura peut-être le film. Non, je plaisante parce que le film a l'air affreux, mais
il y a déjà eu un film en plus.
Ouais, mais il y en a un deuxième qui est en production. Il y a une bonne annonce qui est sortie il y a pas longtemps. Et je fais une parenthèse très rapide. Et le truc a l'air mais affreux. À côté, le film avec The Rock, ça a l'air d'être du Kubrick, quoi. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que id Software a retweeté la bonne annonce en disant nous ne sommes pas du tout impliqués dans la production de ce film. En disant clairement que ça a l'air d'être infâme, quoi.
Pas mal, pas mal.
Je pense que l'idée de l'année 2, ça doit sûrement rejoindre justement l'idée du roulement dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Ça veut juste dire que c'est leur jeu. Est-ce qu'il a été daté depuis Doom Eternal?
Je crois pas, non. Mais à mon avis, je vois bien le jeu, entre guillemets, à court terme. Ils vont en parler le 3, ouais. Et ils vont dire bam, il sort dans 2 mois, quoi. J'espère, ouais. En tout cas. Moi, c'est ce que j'aimerais avoir, parce que j'ai tellement envie d'y jouer, mais.
Ouais, mais... je pense que...
À part ce jeu-là, et puis Wolfenstein, effectivement, je vois pas quels sont les jeux qui vont sortir à court terme chez Bethesda, là.
C'est ça. Je pense qu'ils ont communiqué sur à peu près tout, et je pense que ce sera les deux qui vont sortir soit cette année, soit l'année prochaine. Mais ouais, pour moi, ça veut rien dire d'autre que voilà, on va sortir Doom dans pas longtemps, quoi.
Ouais. Bon, d'accord. Je suis déçu, mais je comprends. alors, quelques news rapides, effectivement. Il y aurait un abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui inclurait le Game Pass et le Xbox Live Gold, qui coûterait une quinzaine de dollars. Peut-être qu'il commencerait aux États-Unis, peut-être qu'il arriverait chez nous aussi. Ça serait cohérent. Valve a annoncé qu'ils allaient, comment dire, mettre en pause les mises à jour de Artifact, le jeu de cartes mal aimé dont on parle depuis un moment parce que les choses se passent pas très bien pour eux. Donc, ils vont revoir non seulement l'économie du jeu, qui est problématique parce que on peut, pour rappel, le jeu coûte de l'argent, il faut acheter des packs de cartes, et en plus de ça, on peut acheter des cartes individuelles sur le store Steam. Donc on peut racheter des cartes à des gens qui en ont. Ce qui veut dire que l'aspect pay to win est encore plus important que pour les autres jeux de ce type, et Hearthstone notamment. Mais en plus de ça, il y a le game design à la base qui pose des problèmes, donc vraiment pas une bonne affaire. On le sentait pas venir exactement comme ça, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je lis toutes les news et puis je vous laisse la parole après pour celles que vous voulez pour lesquelles vous avez des remarques. L'Union européenne est en train de discuter avec Valve et d'autres éditeurs de jeux pour des problèmes de blocage géographique de prix différents dans différents pays de l'Union européenne, avec des impossibilités d'acheter un jeu ailleurs. Ça donne naissance à tout le problème du marché gris. Enfin, c'est une réponse au problème du marché gris où les gens achètent des jeux dans d'autres pays ou des codes et puis les revendent ailleurs. Et c'est interdit, et il y a des systèmes pour faire en sorte que les codes soient différents en fonction des différents pays. Eh bien, évidemment, c'est interdit dans l'Union européenne, et ça s'applique aussi aux biens numériques. Et donc, voilà, dématérialisés. Valve, j'imagine que Sony, encore que les prix sont similaires un petit peu partout, c'est surtout pour Valve que c'est le cas dans l'Union européenne. Je crois que les prix sont les mêmes pour le PlayStation Store et le Xbox Live, enfin le Xbox Store, on me contredira peut-être sur ce point. Mais l'Union européenne s'y attaque, donc il est possible que les prix doivent être harmonisés. Et du coup, ça pose la question de, est-ce qu'on les ajustera vers le haut pour les pays où c'est moins cher aujourd'hui, et donc ça deviendra moins abordable, ou le contraire, ce qui n'est pas vraiment possible non plus, je ne sais pas. On a une bande-annonce pour un film en animation Dragon Quest qui s'appelle Your Story, ça a l'air sympa. Il y a des parties, je parlais du VR, du Nintendo Labo VR, qui n'était pas trop mal foutu, contrairement à ce que j'aurais pensé. Eh bien, figurez-vous qu'on pourra jouer à certains éléments de Mario Odyssey et visiblement à l'ensemble de Breath of the Wild en version VR. Je ne suis pas convaincu que ça soit super adapté, mais c'est quand même possible. Et puis enfin, si vous aimez les Battle Royale et que vous n'avez pas assez de Battle Royale avec Apex Legends, vous pouvez jouer à Blackout, le mode Battle Royale de Call of Duty, jusqu'au 30 avril, gratuitement. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Je mentionne la dernière chose dont je voulais parler, les BAFTA, les awards du jeu vidéo, enfin, entre autres, en Angleterre, sont... sont, ont eu lieu ce week-end. Le meilleur jeu, c'est God of War, et ce qui, moi, me fait bien plaisir. Il y a plein d'autres jeux qui sont mentionnés, évidemment, comme Return of the Obra Dinn pour le game design, Into the Breach, quoi d'autre, A Way Out en multijoueur, etc., etc. Il y a plein d'autres choses, mais évidemment, je voulais mentionner God of War, que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, et clairement, je ne suis pas le seul. Voilà pour ce, ce rapid fire de plein de news. Est-ce qu'il y en a qui vous ont, qui vous marquent ? Vous avez des commentaires sur certaines ?
Bah, juste moi, le mode labo, là, le mode VR de, sur Zelda et Mario, même d'une manière générale, ce mode labo, ce Nintendo VR labo, là, moi, ce qui me fait flipper, enfin, ce qui me fait peur, c'est la définition de l'écran, parce qu'on rappelle que c'est du 720p sur la Switch en mode portable. Donc, sur la réalité virtuelle, ça risque d'être absolument affreux, quoi, en termes de, en termes d'anti-aliasing, enfin, en termes d'aliasing, et j'ai un peu peur de la, parce que clairement, l'écran de la Switch, c'est pas la plus grande qualité de la console, hein.
C'est sûr.
Donc, un peu peur, hein.
J'allais relever exactement la même chose. C'est vrai que du coup, ça me soulève plein d'interrogations parce que la VR, ça demande d'avoir un très bon framerate, ça demande de revoir aussi les décors pour être vraiment pensé en 3D. Ça va être intéressant de voir justement si on se retrouve pas avec un jeu type aquarelle ou patchwork, quoi. Voilà. Mmh.
C'est vrai que moi, il y avait les jeux qui sont présentés avec le kit lui-même qui m'avait agréablement surpris, comme je le disais dans un épisode précédent. À la limite, pour Mario, ça va être des trucs qui sont spécifiquement conçus pour la VR, donc pourquoi pas. Sur Zelda, je me vois mal jouer à Zelda en plus en troisième personne de cette manière un petit peu vomitive avec les problèmes techniques de la Switch. Là, je crois que ça va un petit peu trop loin, mais au moins, ils ont bien travaillé dessus, quoi. Mais bon, bref.
Content qu'ils proposent de la VR, eux aussi.
C'est une expérience pour débuter, quoi.
Oui, bien sûr, mais c'est un segment qui va pas maturer avant des années, qui sera pas abordable pour le grand public avant des années, mais je trouve ça cool qu'il y ait énormément de développeurs et d'éditeurs qui continuent de travailler là-dessus, voilà, même en sous-marin.
Ouais, c'est vrai. Écoutez, je crois que c'est tout pour cet épisode. Je suis un petit peu embêté, je sais pas quelle illustration je vais mettre parce que il y a pas un gros truc, peut-être Apple Arcade mais peut-être que je vais mettre Borderlands 3 en illustration pour l'épisode parce que ils ont une belle illustration et puis moi j'ai pas été gentil avec Andy Pitchford et comme le jeu je l'attends quand même un petit peu, on va faire ça comme ça. Pardon, c'est une question de production d'émission, vous vous en foutez. C'est la fin de l'épisode et j'aimerais remercier évidemment très chaleureusement Jika et Marie d'avoir participé. Est-ce que Marie, tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet si les auditeurs en veulent un petit peu plus ?
Oui, bien sûr, vous pouvez me retrouver du côté de Twitter où on discute de plein de choses et du côté de Twitch pour pouvoir voir de super lives. J'en profite également pour vous enjoindre, et là, pour le coup, je me permets de faire cette pub-là, pour le 3 du côté de chez Gamekult, que j'ai le plaisir de repréparer cette année encore. Voilà.
Ah, c'est cool, je ne savais pas que tu le faisais encore cette année, c'est très très bien.
Donc, oui, en fait, je ne savais pas que c'était publiquement dit, ça a été dit publiquement, du coup, j'en profite pour faire de la petite pub.
Bah super, j'avais eu le plaisir d'y participer il y a quelques années d'ailleurs, c'était un moment mémorable. Et du coup, donc, tu travailles avec le nouveau rédac chef, tu travailles avec Monsieur Verlet.
Avec Pouillot, oui.
D'accord, très bien, très bien. Bon, écoute, je suis sûr que ça va être un moment de pur plaisir vidéoludique comme chaque année avec Gamekult et Marie.
J'espère. De la joie, de la félicité, beaucoup d'annonces et un gros pic de glycémie tout à l'heure.
Évidemment. Jika, qu'en est-il de
qu'en
toi-même
est-il de moi-même toujours, toujours les QSD, bien entendu. Je suis très content parce que depuis le début de l'année, on enchaîne les super invités. Dans le dernier numéro, on a reçu, qui est en ligne depuis peu, là, on a reçu Olivier de Rivière, donc un compositeur de musique qui est assez connu, hein, qui a fait pas mal de jeux, Remember Me, récemment Vampire et tout. Un gars d'une très gentille et passionnant à écouter. Enfin, c'était vraiment, j'étais ravi de le recevoir. Donc voilà. Et dans le prochain numéro, on aura les gens de chez, on aura Laurent Victorino et Maria Kalash, enfin Cécile Fléchon, qui travaille sur Nightcall, qui est un jeu indépendant qui a l'air hyper cool. Donc voilà, je suis très content des invités qu'on a en ce moment. Et voilà, et toujours sur les numériques pour des sujets beaucoup plus high-tech.
Magnifique, et les liens vers vos deux Twitter seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, et vous pouvez venir commenter l'épisode sur frenchspin.fr si vous avez des choses à dire sur tous les sujets qu'on a abordés, que ça soit le State of Play, l'Apple Arcade ou l'article de Jason Schreier ou même les autres choses, les tours de magie de Randy Pitchford, le CEO le plus bizarre de l'industrie du jeu vidéo. Et donc c'est sur frenchspin.fr pour les commentaires. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous !